dans les placards de Félix.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes.
Bonjour tout le monde. Ce mois-ci, comme promis dans les placards de Félix, eh bien, c'est un lecteur. Et je reçois donc Henri Cellier.
Bonjour.
Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Ben c'est parti, Henri, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, quand tu m'as fait part de ton projet, en fait, j'étais en train de lire un bouquin. Je trouvais qu'il y avait des passages intéressants. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, tiens, ben, je vais prendre un passage de ce bouquin que je lis. Quoi.
Voilà. Très bien.
Alors, il s'agit d'un livre, en fait, de sociologie qui étudie le mouvement des Gilets jaunes. Il y en a pas mal qui sont sortis. Je trouve que ce bouquin est facile d'accès puisqu'il est structuré avec une dizaine de petites études différentes, en fait, faites par des chercheurs, des chercheuses. Donc, il y a une cohérence. Ce sont tous des gens impliqués dans le mouvement social et qui sont plutôt sympathisants de ce qui fait bouger le monde. Mais après, ils abordent avec des angles différents. La collection, c'est idées reçues sur les gilets jaunes. Donc. Le passage que je retiens en fait, de ce livre, parce qu'il y a plein, et pour cause d'auteurs et d'autrices, c'est Zakaria Bendali et Aldo Rubert. Mais en fait, ils n'arrêtent pas de citer, si ça vous intéresse... un tas d'autres chercheurs et chercheuses, quoi. Ils font une synthèse, mais avec une question qui est, que justement je me proposais d'aborder aujourd'hui. C'est un peu le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement sans leader. Voilà, c'est défini comme tel, c'est-à-dire en fait cette question du leadership, de la structuration, du fonctionnement des mouvements, prenant les Gilets jaunes alors, comme un exemple de mouvement actuel, représentatif d'une sensibilité dans les mouvements aujourd'hui.
C'est un mouvement qui s'est plus ou moins délité quand il a été question de trouver un leader politique.
Je l'aborderai dans le texte. D'accord. Parce que c'est effectivement une des questions que pose ce texte. C'est la difficulté à avoir des porte-parole, des leaders, mais qui ne sont pas des chefs. C'est la difficulté de tout ça, quoi. On rentre dans le vif du sujet. Alors, bon, au début, il situe un peu le mouvement dans la période. Au tournant des années 2010, des mobilisations massives et inattendues, telles que les mouvements Occupy Wall Street aux États-Unis, les indignés en Espagne et bien sûr les révoltes du printemps arabe, ont secoué la planète. Ces mouvements avaient pour point commun leur rejet affiché des leaders et des organisations politiques institutionnalisées, que sont les partis, associations et syndicats, auxquels ils ont substitué une structuration fluide et horizontale. Celle-ci avait été rendue possible par l'adoption croissante des réseaux sociaux numériques qui ont permis d'atteindre des objectifs auparavant coûteux en termes de diffusion et de coordination de la parole protestataire. De simples individus, armés de leur smartphone, ont alors pu jouer un rôle décisif dans la mise en place d'un mouvement de larges segments de la population qui ne revendiquait aucune appartenance partisane ou militante, ce qui a posé la question de l'obsolescence des organisations protestataires et de leur hiérarchie, qui serait bientôt supplantée par des réseaux sociaux numériques. Voilà. Il situe un peu, donc, y compris à l'échelle internationale, cette question. Or, les Gilets jaunes ont refusé la délégation politique et les logiques hiérarchiques, qui tendent à exclure les novices, si nombreux dans le mouvement. Les conséquences de ce refus, ainsi que l'importance des dispositifs numériques qui le permettent, peuvent être nuancées néanmoins pour montrer la mise en place, au cours de la mobilisation, de formes plurielles de leadership. Voilà, ça c'est un peu l'introduction générale. On se situe dans une période, il y a un outil technologique qui permet une pensée politique, on va dire, aux politiques au sens vision de la société. Et puis après, bon, on rentre un peu, on prend l'exemple des Gilets jaunes. Le deuxième temps, c'est rentrer dans une caractérisation plus précise du mouvement des Gilets jaunes. On va rentrer dans cet exemple. Cette ambition radicale de renouvellement démocratique s'est manifestée tant dans la revendication du mouvement vis-à-vis du pouvoir, avec par exemple la demande d'une reconnaissance d'instruments de démocratie, comme le référendum d'initiative citoyenne, que dans une organisation interne qui refusait toute forme de verticalité. Le mouvement a doublement visé les formes hiérarchiques d'organisation. Donc cette cohérence, c'est-à-dire qu'il y avait un discours avec des objectifs qui en fait visaient à une vision démocratique de l'exercice de la politique, tout en critiquant l'exercice fait par les institutions telles qu'elles se faisaient, institutions au sens large,
oui.
Et en même temps, voir comment ça s'est vécu en termes de fonctionnement interne, c'est-à-dire cette vision, cette exigence vis-à-vis de la société, comment elle a été vécue dans le mouvement. Et on va rentrer un peu plus là-dedans. Si les leaders ont été souvent présentés comme indispensables dans l'obtention du soutien de ressources matérielles pour toute action collective, les Gilets jaunes ont maintenu leur autonomie vis-à-vis des logiques militantes qui tendent souvent à démobiliser les adhérents issus des milieux les plus populaires. Là, ils font référence à des recherches qui ont démontré cette affaire-là. L'occupation permanente des ronds-points a permis une politisation par les partages d'expériences avec des semblables, basés sur des liens horizontaux plutôt que sur des organisations hiérarchiques. Comme lors du mouvement El Estallido au Chili, 2019-2021, en réaction au renchérissement des services publics, l'absence de médiation et de leadership exposée de la part des organisations politiques a fonctionné comme une condition nécessaire à la mobilisation des primo-manifestantes. Et là, bon, il y a une étude en fait, pour démontrer que c'est ça qui a fait aussi la qualité du mouvement et son attirance pour un tas de gens. C'est de se sentir plus impliqué comme ça. La légitimité du mouvement a trouvé ses racines dans l'absence affichée de liens de subordination entre les participants, et les Gilets jaunes ont échappé à l'intermédiation des discours politiques uniformisants et portant chacun chacune une plainte singulière sur le dos du Gilet jaune, de son gilet. Et ça, c'était assez spectaculaire dans les manifs ou dans les ronds-points quand on... Dans les faits, toute mobilisation implique pourtant une nécessaire inégalité entre les participants qui ne sont pas tous dotés des mêmes manières de ressources matérielles et culturelles et n'ont pas non plus la même disponibilité en temps. Donc, c'est la difficulté qui commence à apparaître. Et après, l'étude met plusieurs points, notamment comment ça a bougé, comment avec la durée du mouvement, ça a évolué cette affaire.
Oui, parce que c'est un mouvement populaire, donc qui touche toutes les couches de la société, et des gens qui ont des métiers très, très accaparants, d'autres un peu moins.
Tout à fait, des gens qui sont... Alors, il y a d'autres études, parce que dans ce bouquin, justement, il y a beaucoup d'études. Qui étaient les Gilets jaunes, etc. Et tout. Effectivement, il y a une convergence de population, d'habitants, d'un même territoire. Il y a une logique de territoire. Ceci dit, ça s'est reproduit partout. Il y avait dans l'organisation même une logique de territoire géographique. On va retrouver des retraités, des personnes centrales, travail parce qu'au chômage, des patrons d'entreprises du bâtiment ou des agriculteurs, oui. Gens qui sont très occupés au niveau du temps et donc ils vont passer sur un rond-point, ils vont bloquer avec leur tracteur un jour, puis après ils vont repartir à la ferme. Bon, il y a une participation assez égale de toutes les couches de la société, y compris des intellectuels, des gens, des couches sociologiquement, ce qu'on appelle les CSP+, beaucoup de fonctionnaires, et alors beaucoup, une présence importante des femmes, une présence importante mais c'est d'autres chapitres du livre, hein, des soignants. De ce qu'on appelle les soignants, c'est le care, j'aime pas utiliser,
les métiers de l'accompagnement,
que ce soit à la maison, à l'hôpital, etc. Ouais. Et tout. Et là, il y avait une forte présence de ces métiers-là. D'une manière générale, tous ces métiers ont trouvé des convergences, mais il y avait le sentiment d'être ceux qui concrètement sont sur le terrain, quels que soient les métiers ou les pratiques, et qui ne sont pas reconnus comme tels, et qui sont non écoutés. Il y a eu beaucoup de temps d'écoute, en fait, sur les ronds-points. Ça a été une forme de mouvement qui a permis aussi beaucoup d'échanges sur le terrain entre tous les participants et participantes. Bon, je reprends donc sur cette question de comment se structure le mouvement par rapport à la question du leadership, du pouvoir, etc. Les mouvements peuvent choisir d'institutionnaliser la participation par des assemblées générales ou des votes pour tenter de neutraliser une partie de ces effets. Donc les effets, c'est l'inégalité de capacité d'investissement des uns des autres. Donc pour mettre que tout le monde soit réellement à égalité, les mouvements peuvent choisir de s'organiser de manière à formaliser des moments où tout le monde va pouvoir avoir le même droit, etc. Et tout, ce qui n'est pas le cas si ça fonctionne au fil de l'eau, puisqu'il y a celui qui va rester ou celle qui va rester en permanence a beaucoup plus de poids que celui
qui n'est pas là. Tout à fait, et de temps de parole.
C'était très démocratique au sens, hein, c'était vraiment... voilà. Alors, pour tenter de neutraliser une partie de ces faits, au risque d'imposer un mode particulier de participation qui handicape celles et ceux qui sont le moins coutumiers, c'est aussi des études qui ont été faites, c'est que la formalisation des décisions permet effectivement de remettre à l'égalité là où l'inégalité de la vie fait qu'on ne peut pas être présent tout le temps, etc. Et tout. Mais en même temps, le constat est fait que ça désengage des gens qui ne savent pas trop fonctionner dans ce système-là et qui sont plus à être dans le ressenti, et dans la durée, la discussion, etc. Et, tout, et qui trouvent pas forcément la place dans l'organisation quand elle est institutionnalisée et qui, là, pouvaient trouver leur place. Donc, voilà, c'est cette espèce de tension qu'il y a eu, l'article développe ça. Mais ils peuvent également choisir de persister dans une logique de non-structuration au risque de s'exposer à la tyrannie de l'informel. Celle-ci tend à consolider le pouvoir entre les mains de minorités affinitaires qui rassemblent des individus les plus doués en ressources et en temps libre. La tension, elle est là. On organise, on institutionnalise, ça crée une égalité formelle et réelle, mais ça a tendance à écarter des gens qui ne sont pas bien à l'aise dans ces systèmes-là. Laisser l'informel, c'est peut-être aussi donner le pouvoir de manière invisible et inconsciente à des gens qui sont plus dotés pour ces genres de choses et à des réseaux affinitaires. Face au sentiment de déclin de la mobilisation et à l'épreuve de l'expulsion des ronds-points, c'était un moment important dans l'évolution du mouvement, les Gilets jaunes ont été confrontés à la question du pouvoir. Si certaines fractions de ronds-points ont essayé à tout prix de maintenir les schémas initiaux de l'occupation, d'autres se sont transformées en clubs, de plus en plus homogènes socialement, en raison de leur format délibératif, quand d'autres ont vu émerger un leadership polycéphale et souple qui a garanti sa pérennité. Donc il y a eu effectivement les ronds-points, c'était le lieu géographique qui a permis cette forme de fonctionnement. Quand les ronds-points ont été dispersés à la fois par une négociation avec une partie des gens qui tenaient les ronds-points, je pense à toutes les professions qui utilisaient le fameux diesel rouge et dont la détaxation a été maintenue, qui se sont retirés à partir de là. On a vu disparaître de nos ronds-points les tracteurs, les bulldozers et les camions. Après, c'était plus que effectivement une population de piétons qui tenaient ça avec des feux de camp. Voilà.
Polycéphale.
Ils ont analysé, donc, et là ils font référence à des études. Eux, ils citent un peu les études ils résument plusieurs études, en fait, une vingtaine d'études. Il y a eu donc la tentation soit de maintenir à tout prix les ronds-points. Et à un certain nombre d'endroits, les gens ont tenu pendant très longtemps à maintenir le rond-point comme le lieu. D'autres, c'était un peu le choix qui a été fait sur Sainte-Afrique par une partie des Gilets jaunes, se sont créés en club, en association, etc. Et tout. Mais le risque, c'est que dans ce système-là, le leadership devient un peu institutionnalisé, etc. Et, tout. Et d'autres ont essayé de maintenir un fonctionnement à plusieurs expressions, plusieurs personnes, etc. Alors... Il creuse un peu l'affaire. Le refus de l'organisation a également permis l'émergence de leaders informels sur des ressorts charismatiques plutôt que sur des procédures de désignation. Paradoxalement, le leader informel des collectifs locaux, à l'échelle des ronds-points, ont dû, pour être reconnu comme tel, renoncer explicitement à représenter qui que soit d'autre qu'eux-mêmes. C'est une espèce de contradiction. C'est que les leaders reconnus sous la forme qu'ils appellent charismatique, c'est-à-dire il n'y a pas de vote, etc., mais de fait, on accepte ce leadership pour que ça marche. En fait, ces gens-là ne devaient pas dire « je parle pour tout le monde ». Mais ils disaient « moi, en ce qui me concerne, je pense que... » Et « ah, c'est exactement ce que je pense ». Il y avait ce côté-là. Il ne fallait pas parler au nom des autres, quand on voulait justement être reconnu comme leader charismatique. Mmh. C'est une des contradictions du... Certaines de ces personnes ont accédé à une notoriété nationale en étant adoubées par les invitations dans les médias. C'est toute la question que tu as anticipée un peu tout à l'heure sur l'organisation nationale, les porte-parole du nom. L'organisation des médias désireux de trouver des interlocuteurs pour personnifier un mouvement insaisissable. Les mouvements qui refusent de se choisir des leaders laissent généralement les autres décider à leur place. C'est un constat qu'ils font.
Tout à fait.
C'est que voilà, si tu ne les choisis pas toi, c'est les médias qui le font aujourd'hui concrètement.
Ouais.
Nous voulions changer le cours de l'histoire. Nous voulions toute la mer à boire. Nous voulions des châteaux en Espagne. Nous voulions rapprocher les montagnes. Nous voulions que nos femmes enfantent une humanité différente. Nous voulions des horreurs nouvelles. Nous voulions renaître avec elle. L'imagination était au pouvoir, circuler. Il n'y a plus rien à voir. Nous voulions tout, et tout de suite, nous voulions vivre sans limite et nous promener sur la terre sans nous cogner à des frontières. Nous voulions demander l'impossible, nous voulions des orages paisibles, nous voulions de l'amour avant toute chose et du bonheur en overdose. L'imagination était au pouvoir, circuler. Il n'y a plus rien à voir. Sans regret et sans mélancolie, je te chante la chanson que voici. Elle était rangée au fond de ma guitare, elle m'est revenue en mémoire. L'imagination était au pouvoir, circuler. Il n'y a plus rien à voir. L'imagination était au pouvoir, circuler.
Tu as été un syndicaliste quasiment toute ta vie, professionnelle en tout cas.
Oui, toute ma vie.
Est-ce que ce besoin qu'ont manifesté les Gilets jaunes d'avoir un espace de parole, en tous les cas, qui soit le même pour tous, qui soit respecté, est-ce que ce n'est pas déjà des choses qui se sont produites 50 ans avant ? Est-ce que dans les années 70, il n'y a pas eu déjà beaucoup de mouvements de cet ordre-là ? Qu'est-ce que tu vois, toi, comme différence entre ces deux époques ?
Alors, si, de fait, le syndicalisme, c'est quelque part une forme institutionnalisée. Mais c'est une forme qui est sur le terrain, qui est généralement insérée dans une profession, dans un métier, dans des gens qui travaillent ensemble, etc. C'est une forme qui n'est pas détachée du quotidien. Parce que, en fait, tu te fréquentes. Alors, c'est aussi l'évolution. Moi, j'étais au chemin de fer, j'étais cheminot. Moi, je travaillais dans un établissement, il y avait 2000 personnes. Donc, si tu veux, déjà au travail, tu travailles ensemble. Tu ne peux pas travailler seul. Un train ne circule pas s'il n'y a pas quelqu'un qui le prend et qui le passe au suivant, et ainsi de suite. Hein. On travaille qu'en chaîne. Et un peu tous les métiers de production sont comme ça. Mais c'est des métiers qui sont en même temps rassemblés. On est à la fois très dispersés sur le territoire, mais assez rassemblés dans un certain nombre de lieux. Et ça fait que quand il y a notamment des conflits sociaux, des choses comme ça, il y a beaucoup cette espèce d'assemblée qui réunit un peu tout le monde. Et on va avoir depuis l'ingénieur, quasiment le niveau Bac plus 5, qui tient un poste d'aiguillage de haut niveau. Et puis le copain qui sort de l'école sans savoir lire et écrire presque.
Oui, donc il y a une grande disparité.
Voilà. Et l'AG, c'est tout ça. C'est tous ces gens-là.
Okay.
Et le boulot syndical, ça consiste à mettre un peu... Alors ça, c'est un peu un héritage de 68, qui retrouve là des choses qui se sont passées avant, mais on ne va pas faire l'histoire du mouvement ouvrier. De retrouver ce qu'on appelle un peu l'assembléisme, c'est-à-dire de faire des assemblées. Les syndicats proposent un certain nombre d'analyses, d'orientations, d'actions, et puis l'ensemble des grévistes décide en discutant ensemble. Et tous les jours, en fait, un petit groupe, ça, c'est un peu le suite des assemblées lycéennes, étudiantes, etc. Des groupes se mettent en place. Qui c'est qui veut aider pour demain, la manif, etc. Il y a une espèce de participation un peu collective. En 68, par exemple, dans les triages, moi je ne travaillais pas encore, mais je suis arrivé en 73 dans ces endroits. La mémoire de comment ça s'organisait existait beaucoup. C'est-à-dire que, bon, il y avait à la fois les fantasmes, disons-le, staliniens, qui disaient, ouais, attention, les étudiants ont tout cassé, il ne faut pas qu'ils rentrent dans le train, quoi. Mais il y avait aussi l'organisation concrète. On avait des wagons avec des bestiaux. Pendant tout 68, on a été nourrir les bestiaux. Et donc, il y avait des gens, il fallait récupérer du foin, récupérer de l'eau, etc., et tout, pour nourrir les bestiaux. Il n'y avait plus aucun commerce, rien circulait. Donc, en fait, tous les commerçants du quartier où on habitait ont été réquisitionnés. Ils ont eu un jour une délégation syndicale qui est venue. prévenu, qui leur a dit à partir de maintenant, les gens vous achèteront avec des bons qu'on va imprimer. Et tout ça, ça vous sera payé après la grève. Et donc, il y a eu toute une organisation collective qui s'est mise en place, qui était du quotidien, etc., sans parler, la garde des enfants, tous ces machins-là. Il y a déjà ce côté un peu territoire, rassemblé, etc. Ce que j'ai tendance à penser, c'est que l'évolution des métiers, l'évolution de du mode de production, en tout cas dans nos pays, a isolé beaucoup plus les gens.
C'est ça.
Et qu'on a beaucoup moins ces lieux de type usine, en fait, ou grands ateliers, où on pouvait faire cette pratique de l'assemblée. Et quelque part, moi, je n'ai pas été déboussolé sur la pratique des gilets jaunes, parce que, bon, il n'y a pas cette unité de métier qui fait qu'on est inscrit dans une certaine durée avec une information régulière, qu'on partage un certain nombre d'orientations, de valeurs, la sécurité, la circulation des trains, le service public, enfin, des choses en ce qui concerne moi, mon secteur. Parce que là, c'était des gens qui, pouf, qu'est-ce qu'on avait de commun ? Les infos télévisées. Donc là, c'était un peu plus compliqué à retisser de l'unité, mais cette pratique de la discussion avec des gens d'accessibilité très différente à la parole, à l'écrit, mais à la présence même, etc. et tout, ça ne me choquait pas. Genre que le syndicalisme est quelque chose qui, de ce point de vue-là, à mon avis, a encore un pied dans la vie quotidienne. Tu vois, je pense que c'était à une échelle. En même temps, ce qui était intéressant, c'est justement de retrouver sur ces ronds-points des personnes, notamment des femmes, toutes celles qui sont dans le soin à la personne, qui sont très isolées, dont le travail, grosso modo, ne les met quasiment jamais en contact, même avec quelqu'un qui pratique le même métier.
Tout à fait.
En fait, hein. Ils se succèdent éventuellement, ils se croisent. On ne perd pas de temps, quoi, grosso modo, si on a un truc à dire aux salariés, les cadres, ils réunissent la réunion, et puis après, chacun son boulot. Donc, cet isolement des salariés a fait que ces ronds-points ont été un moment essentiel. Mmh. Et je comprends bien, moi j'ai retrouvé dans la volonté de maintenir le rond-point, des trucs que je voyais toujours à la fin des grèves. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a un métier qui est très isolé, c'est les conducteurs. Parce qu'ils sont tout seuls dans leur bécane, etc. Et, tout. Et c'est très, très difficile pour eux de reprendre le boulot quand la grève a duré. Il y a un vrai truc collectif qui s'est passé et tout. Et ils savent que demain, c'est chacun chez soi, chacun sur sa machine. Mais t'as tous ces gaillards, ils pleurent quand il faut reprendre le boulot. J'ai retrouvé la même difficulté sur les ronds-points.
Je t'ai fait d'un amour si tendre que tu es doux comme le miel. J'ai tant rêvé à tant t'attendre, j'ai voulu t'appeler Abel. Tu vas grandir et j'en frissonne, car les vautours, les financiers feront de ton rire qui sonne un bellement standardisé. Abel, mon fils, te rendre imbécile mais bien vêtu, tout ce que j'aurais pu t'apprendre. Par quoi le remplaceras-tu? Par des slogans, des chansonnettes, un érotisme de bazar. Ils t'abêtiront, mon poète, toi le contraire du hasard. Porté farouche dans un moment de désespoir, car tu sauras de ma bouche tout ce qu'il ne te faut pas croire. Mon fils, mon beau comme un orage, moi si je te préfère ainsi, il me faudra un grand courage pour t'élever comme un souci. Car si tu deviens violence, tu peux être bêtise en plus. La sincérité à outrance devient mensonge, le sais-tu? Comme on prend goût à la bataille, on finit par la provoquer. De quel côté faut-il que j'aille, mon fils, pour ne pas te manquer? Mon âme, comment démêler ton destin? Comment comment protéger ta flamme sans par trop me brûler les mains. Si tu es doux, si tu succombes à leur lente machination abelle, je préfère la bombe à cette crétinisation. Mais si tu te bats, mon archange, tu devras être un assassin. Aussi bien pour ce que ça change, c'est moi qui te tuerai qu'un. D'ailleurs, à défaut de la bombe, d'autres moyens me sont offerts pour ne pas pleurer sur ta tombe, mon fils, pour ne jamais te faire.
J'ai proposé Anne Sylvestre. Je pense qu'elle n'est pas assez connue. Et puis j'aime bien que des chanteurs comme ça, on l'appelait la Brassens sans jupon. Bon, je proposais là Abel et Abel Cain, mon fils. J'ai choisi des chansons, d'abord parce que l'autrice me plaît. Je pense que c'est quelqu'un de qualité. Je pense que par rapport au sujet de l'émission, ça se prête à de la chanson à texte.
Tout à fait.
Dans la chanson à texte, j'aime bien les chansons dont on comprend le texte. Et en plus, c'est quelqu'un d'engagé. Bon, c'est une féministe, ce qui est plutôt une qualité, et qui porte en plus le non-sectarisme. Ses chansons amènent à réfléchir. Et ça, j'aime bien Anne-Sylvestre pour ça.
On reprend ta lecture ?
Oui, alors pour reprendre, donc on était sur le fait que les mouvements insaisissables, les mouvements qui refusent de choisir des leaders, laissent généralement d'autres choisir leur place. Ça a été le cas manifestement des médias. C'est même pas un calcul, hein, je le dis en passant, c'est que les médias ont besoin d'avoir quelqu'un qui parle pour tout le monde, qui illustre le mouvement. Ils ont besoin d'une image, et donc il faut trouver une image du mouvement, c'est parce qu'il ne peut pas fonctionner sans ça. Sauf que du coup, le mouvement se sent prisonnier quand il n'a pas choisi d'avoir lui-même quelqu'un qui parle dans tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Mais en même temps, tout le monde veut passer à la télé quand on fait un mouvement. Enfin, voilà. Alors après, je reprends. Ainsi, fin novembre 2018, 8 porte-paroles du mouvement se sont présentés comme des communicants officiels ou des messagers, en prenant soin de renier la catégorie des leaders. Les porte-paroles de ce groupe a été immédiatement désavouées, bien que la plupart d'entre eux aient continué à intervenir publiquement en leur nom propre. Ils avaient beau dire, en fait, non, mais moi, je parle qu'en mon nom, je ne suis pas le porte-parole désigné, etc. et tout, mais bon, comme ils étaient identifiés par les médias, comme les porte-paroles nationaux, même s'ils déniaient cette fonction, en fait, ça les a immédiatement... D'autres figures se sont aventurées dans les entreprises plus hasardeuses. Il y en a qui ont cherché à constituer des associations, des listes électorales revendiquant les gilets jaunes. Bon, on a eu une série de démarches comme ça. On voit que le mouvement a tâtonné, en fait, sur une série de choses. Et on est un peu après, à la fin, dans cette étude. On peut dire que le mouvement n'est pas dépourvu de prétendants au leadership, mais plutôt, en fait, traversé par des luttes de leadership inhérentes à la structuration informelle. La structuration formelle amène, effectivement, des candidatures éventuellement, mais l'informel n'enlève pas cette question, en fait, de la lutte de leadership. Cet état de fait qui donne lieu à une pluralité de leaders, ne se revendiquant pas forcément comme tel, empêche l'émergence d'un leader institutionnel, mais dispense celles et ceux qui occupent ce rôle de rendre des comptes devant des instances formelles et les protège en partie des contestations. Ça, c'est un détail important du côté informel, en fait. Hein. Le bilan, un peu quand même, c'est que ce mouvement, ces études mettent en avant quand même l'intérêt de cette forme et de ces mouvements. Ils ont fait naître un espace d'expérimentation dans lequel nombre de personnes peu disposées à la participation politique ont trouvé le contexte favorable à l'éclosion d'un sentiment de légitimité à s'exprimer, ainsi qu'une véritable alternative en ce qui concerne la façon dont les individus s'organisent pour formuler leurs revendications politiques. Cette expérience doit attirer l'attention sur l'impopularité croissante du mode historique de canalisation de l'expression populaire, politique populaire, par des corps intermédiaires représentatifs, syndicats, partis, associations, souvent désignés comme une crise de représentation. Pour autant, les Gilets jaunes, comme les mouvements des places qui les précèdent, ont aussi fait la démonstration du caractère difficilement dépassable de la médiation politique en trouvant rapidement les limites de l'horizontalité qu'ils se donnaient pour but. C'est-à-dire, je pense que cette étude n'a pas la prétention d'amener une solution, mais d'essayer de pointer ce que le mouvement des Gilets jaunes a fait avancer, un mode de fonctionnement qui permet l'investissement de personnes qui, sinon, se désinvestissent en fait du champ social et du champ politique. Mais la limite, elle est quand même qu'à un moment donné, faut quand même arriver à donner la parole, à proposer des orientations, etc. Et tout. Et là, il faut bien des porte-paroles, etc. Donc il y a quelque chose sur lequel on bute, qui n'est pas simple.
Pour lequel il n'y a pas forcément de solution, en plus.
Pour l'instant, il n'y a pas forcément de solution. Je pense qu'il faut... Déjà, il faut être souple dans sa tête. C'est un premier truc qui ne veut pas dire opportuniste. Hein. Bon, quand je suis un de la génération post-68. Et je m'étais mis un peu en tête que l'idée, c'était d'organiser la spontanéité. Ce qui peut paraître une contradiction, un oxymore.
C'est vrai, c'est intéressant.
Mais c'est-à-dire qu'il faut des organisations. Mm-hmm. Mais il me semble que le but n'est surtout pas d'empêcher quand éclose. Il y a des moments historiques où éclose. J'aurais pu prendre d'autres bouquins, par exemple, des choses que j'ai vécues au Portugal pendant la Révolution des œillets. Et des moments où, brutalement, et sans qu'on comprenne ce qu'il y a, on peut peut-être l'analyser après, essayer de comprendre, mais sur le moment, on ne voit pas venir. On voit qu'il y a une espèce de maelstrom qui part, il y a une dynamique qui part, et les gens commencent à venir et partent, etc. Et tout. Et il y a un vrai truc collectif qui se crée, avec un vrai plaisir en plus collectif qui à ce moment-là émerge. Il ne faut surtout pas à ce moment-là que l'organisation veuille faire rentrer le mouvement dans les moules qu'elle avait créé avant. Il faut être capable de créer les conditions.
De laisser faire,
qu'un mouvement démarre, parce que s'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de mouvement qui démarre, je pense. S'il n'y a pas un travail d'information qui décortique ce qui s'est passé, qui donne des pistes de mobilisation, etc. Et tout. Mais quand ça démarre, il ne faut pas vouloir garder la main sur le truc. Il faut savoir, à ce moment-là, mettre en retrait le fonctionnement de son organisation et aider le mouvement à fonctionner. L'idée, ce n'est pas d'être dessus. L'idée, c'est pas de... Mais c'est que si on veut que les choses changent, il faut aider les mouvements. Il ne faut pas les neutraliser. Donc, il faut plutôt les aider à ce moment-là à se développer, à saisir ce qui est le plus dynamique dans un mouvement. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est clair que ces ronds-points ont été un élément dynamique très important. On a vu évoluer, c'est clair. Mm-hmm. Les premières paroles de ronds-points et les paroles un an après... C'est bien plus élaboré. Quand on arrive au cahier de doléances, où effectivement il y a toute une série d'orientations qui sont données, etc. et tout, et que ça part sur deux, trois trucs fiscaux par rapport aux déplacements, etc. Mais en fait, le déplacement, ça a soulevé beaucoup de choses. Ça a soulevé comment on vit, pourquoi je travaille, ça a soulevé. Et puis mon travail à moi, pourquoi il est moins payé que le tien, etc. Et tout. Bon. Et donc ça fait de la conscience. Et sans conscience, il n'y a pas de transformation sociale. Donc je pense qu'il faut savoir lâcher bride quand on est organisé. Mais il faut s'organiser.
Il faut lâcher prise et laisser ce mouvement prendre forme et le laisser enfler, le laisser vivre par lui-même. Mais d'abord, ça veut dire que ce mouvement, à un moment donné, c'est comme un soufflet, ça va retomber, hein, c'est à un moment ou à un autre. Mais ça sous-entend aussi qu'il va falloir des gens en périphérie pour observer quand même ce système. Toi, tu ne peux pas être dans le vivre et en même temps dans l'observation.
Si,
sinon, tu es dans l'organisation.
Non, moi, je pense qu'il faut... le rôle d'un militant, ce n'est pas de cacher qu'il l'est. Dans ces cas-là, c'est pas de cacher. Moi, j'ai jamais caché aux Gilets jaunes que j'étais organisé, que j'étais syndicaliste. Mais j'ai pas ramené mon étiquette en disant, mais écoutez, nous, on sait comment faut faire. Même si parfois, j'avais une demande en disant, mais attends, toi, tu sais faire. J'ai dit, non, mais attends, on continue, on fonctionne ensemble, etc. Et voilà. Parce que je sais bien, si c'est comment à faire avec ceux qui savent faire, on va terminer à 5, quoi, alors qu'on est 70 dans la salle. Donc, il faut savoir, mais il faut pas cacher qui on est. Et je pense que la contribution qu'on doit amener, c'est de dire, mais nous devons réfléchir. Voilà. Notre mouvement, puis y compris à ça, y compris le fait qu'il y a des gens qui commencent. Dès que tu fais un mouvement comme ça, le quatrième jour, généralement, il y a une première partie de gens qui viennent plus parce qu'ils ont donné du temps, mais ils ne pensaient pas que ça durerait si longtemps, etc. Et tout. Ils ne mesuraient pas ça. Et il commence à y avoir des gens qui se retournent contre eux en disant « Ouais, mais tu vois, il ne vient plus. » Mais ce n'est pas ça la question. Ça va forcément se produire. La vie professionnelle, la vie familiale fait qu'on ne va pas pouvoir passer tous nos jours là, à un moment donné. Donc, il faut qu'on arrive à réfléchir comment... On va ensemble bouger, mais en gardant l'ensemble. Les gens qui sont retirés du rond-point, on n'a pas coupé les ponts. On se croisait après en ville, etc. Et tout. Bon, y a un truc, je m'amuse beaucoup. Quand je rentre dans un supermarché, je sifflote. Mais immédiatement, si tu vas dans un Intermarché ou autre chose, ça sifflote à l'autre bout, un peu partout dans
D'accord.
le magasin. Tu vois, ce réseau, il est vivant et il faut garder ce côté-là. Cette espèce d'humanité, en fait, qui continue de fonctionner en réseau. Ce que j'ai tendance à dire à mes contradicteurs, s'il y en a qui s'amènent, on dit « Ouais, mais t'as dû... » Je dis « Oui, si tu réfléchis pas, tu vas forcément perdre un coup. Réfléchis avec tout le monde. Réfléchis à ta manière, réfléchis comme tu veux, mais si tu participes pas au truc, tu admets quelque part que d'autres vont le faire pour toi. C'est la vie. Donc, il faut pas cacher les choses. Mais il vaut mieux être dans le mouvement. Je crois pas beaucoup à... Alors, l'extériorité, si. Mais là, c'est quand on confronte. Et c'est vrai qu'il faut se confronter à des gens qui sont pas dans le mouvement, par exemple. Et leur dire « Mais comment tu vois les choses ?» Ou confronter des expériences très différentes de rond-point. Il y a ça aussi. Et puis même au sein des ronds-points. Alors, le point de vue d'un agriculteur, je vais dire par exemple adhérent à la FNSEA, et moi qui suis plutôt de sensibilité alternative écolo, forcément on va se croiser sur un rond-point. Mais là, on est sur une même action. Donc à un moment donné, on peut discuter quand même de choses, mais on a quand même deux points de vue. Et à un moment donné, on n'est pas forcément arrivé à la même conclusion hein, à la fin de tout ça. Donc y a, ça c'est. Alors, et après, bon, on est toujours sur la question des choses, la question des limites infranchissables, des lignes rouges qu'on se fixe, quoi, le racisme, des choses comme ça. Hein. Je peux comprendre quelqu'un qui a peur, mais la manière dont on l'a caricaturé et donc il va dire, il y a trop d'immigrés, moi quand je sors la nuit j'ai peur, etc. Bon, il en a vu deux, il est complètement perdu.
Ou le sexisme, parce que voilà, ça c'est passé dans le langage courant.
Tout à fait. Et si tu veux, mais ça il faut le combattre, c'est-à-dire que. Mais
donc il y a des valeurs communes. Il faut établir au départ.
Il faut en créer une valeur. Ben, pas au départ. On va en créer. C'est-à-dire que.
Au fur et à mesure
ouais,
du mouvement.
On va le construire. Okay. Ça se construit dans le mouvement. Il ne faut pas abdiquer par démagogie de choses qui sont essentielles. Mais on n'est pas là en donneur de leçons. On dit comment, à partir de cette dynamique qu'on construit ensemble, on va faire un truc qui rassemble tout le monde. Quoi.
Donc, il faut avoir des qualités propres, individuelles, que l'on transmet ou que l'on insuffle au mouvement et au groupe, qui sont être capable de se mettre en retrait par rapport à ce qu'on sait faire et à ce qu'on sait être, pour permettre au groupe d'apprendre par lui-même, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas être persuadé que ces recettes sont forcément les bonnes. On faut pas nier ce qu'on a fait. Moi, je dis, il n'y a pas de honte, je dis aux syndicalistes.
Absolument.
Mais ne renie pas le fait que toi, parce qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui disaient, absolument, putain, mais ils se bougent le cul. Mm-hmm. Nous, on a fait un truc sur les retraites, ils étaient où, etc. Enfin, mm-hmm. Ah oui, ils n'étaient pas là.
Et la deuxième qualité, de ne pas être dans le jugement de l'idée ou de l'action des autres. Mais c'est, bon. La co-création, c'est quand même quelque chose de très compliqué, hein.
Oui, de toute façon, changer le monde, c'est compliqué. Bon, déjà, non, c'est pas. C'est évidemment compliqué. C'est pour ça que moi, personnellement, je conseille des livres de recherche, parce qu'il y a des gens qui travaillent ça, qui savent être à l'écoute et tout, puis qui mettent par écrit un peu des choses. En fait, on lit un bouquin avec lequel on est d'accord. Mais il le dit mieux qu'on aurait réussi à le dire. Mmh. C'est un peu ça, tu vois. C'est ça que je trouve intéressant.
D'accord. On met une petite musique ?
Ouais.
J'ai la télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. J'suis heureux. Une femme et deux fils qui n'obéissent guère. À Château, une résidence secondaire. Le barbecue l'été, le feu de bois l'hiver. Et pendant le mois d'août, je me dors à la mer. J'suis heureux. Je sais choisir mon déodorant corporel, ma crème, mon tonique au parfum personnel. Je comprends mieux ma femme, je me rapproche d'elle. Je sais danser le jerk, j'ai un slip rassurel. J'suis heureux. Ma femme sort sans moi quelquefois, c'est son droit. Elle a ses connaissances, ça ne me regarde pas. Je vois tous les mardis une fille du nom d'Olga. Elle a la bouche grande et ça compte pour moi. J'suis heureux. Je suis un homme de gauche, mais la gauche a vieilli. Il faut évoluer, c'est la loi de la vie. Je ne dis pas cela parce que je suis nanti. D'ailleurs, tout ce que j'ai, je l'ai eu à crédit. J'suis heureux. Si j'ai peur du cancer, j'ai pas peur des Chinois. J'ai du cœur, j'ai donné 10 francs pour le Biafra. J'ai besoin d'érotisme, j'aime Barbarella. Et de Funès et Dracula quand je les vois. J'suis heureux. Je rêve chaque nuit et des rêves barbares. Je suis toujours pirate ou cosaque ou tartare. Égorgeur ou violeur, incendiaire ou pillard. Et quand je me réveille au matin, c'est bizarre. J'suis heureux. Je ne perds pas mes cheveux, je ne perds pas mes réflexes. Je ne suis pas raciste, je n'ai pas de complexe. Je suis bien dans mon âge, je suis bien dans mon sexe. Aucune raison d'être angoissé ni perplexe. Je suis heureux. télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux.
Je propose d'écouter Moustaki, qui est le plus connu, Portugal. En fait, c'est un chant qu'il a fait sur la révolution du 25 avril 1974. Bon, d'abord, j'aime bien Moustaki, c'est un mec très engagé, mais très cool, quoi.
Ô muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili. La guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Au quatre coins du monde, des frères ennemis s'explique par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse de meu fado, ô minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Débouche une bouteille, prends ton accordéon. Que de bouche à oreille s'envole ta chanson. Car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial.
25 avril 1974, tu voilà, rappelles un peu pour voilà, les auditeurs.
Ouais, je débutais au chemin de fer et donc j'avais le train gratuit. Le Portugal était un des derniers pays européens engagés dans une guerre coloniale, enfin dans des guerres coloniales. Et en fait, ce qui s'est passé pour au Portugal, c'est que les jeunes étudiants qui étaient envoyés systématiquement à la guerre, ils avaient vécu toute cette mouvance internationale de la jeunesse, qu'on peut appeler rapidement le mouvement rock. Et eux, quand ils étaient là-bas, ils étaient en fait officiers. puisqu'ils étaient étudiants, mais ils n'étaient pas généraux, ils n'étaient pas acquis au régime. C'était juste les capitaines, c'était les gens de base, mais quand même qui étaient en fait ceux qui avaient en main la vérité de l'action militaire. Et à un moment donné, ils ont monté un coup d'État. Et ils ont réussi leur coup d'État, forcément, parce que qui allait s'opposer à En fait, les généraux n'ont plus tenu leur armée. C'est les capitaines, on a dit la révolution des capitaines. Et donc, ils sont avec les troupes de choc, les troupes les plus aguerries, etc. et tout, sont arrivées et ont pris Lisbonne, ont pris le Portugal. On dit, voilà, c'est terminé, on vire la dictature. Alors, sachant qu'eux, ils avaient la dictature la plus ancienne d'Europe, puisque le fascisme s'est installé au Portugal avant même que Franco n'arrive au pouvoir en Espagne. Et ils n'étaient pas sortis du fascisme. Ils sont sortis en 1974. Il se trouve que moi, par mon itinéraire militant, j'avais eu des contacts avec les réseaux prêtres ouvriers portugais, 2 ans avant ce coup d'État de 1974. Et j'avais été là-bas pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. On savait que c'était un État policier, on était contre Franco, Et j'avais été stupéfait parce que quand tu réunissais dans une même salle 3 prêtres ouvriers qui étaient pourtant sur un réseau déjà acquis à un certain nombre de choses, ils ne parlaient pas, et dès que tu sortais de la salle, il y en avait un qui se levait, qui venait de dire « j'ose pas parler, il y en a un qui est à Lapide ». Lapide, c'était la police politique. C'était un pays étouffé, où les gens ne parlaient pas entre eux. Et là, je retourne, donc, comme je suis cheminot, je disais, ils cherchent qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans une usine qui fabriquait des survêtements pour un Français, qui était propriétaire de cette usine, en fait, quand il y a eu le coup d'État et la révolution donc, des œillets, les patrons se sont sauvés. Hein, comme toujours. Et donc, ils se sont barrés, et les ouvrières, c'était que des femmes, environ 350-400 femmes, se sont trouvées dans une usine qui tournait plus, il n'y a plus de patron. Et bon, au début, tu fais la manif, tu découvres, etc., t'amènes des œillets aux soldats et tout. Puis après, tu te dis, mais comment on va vivre? Et donc, ils ont remis l'usine en marche. Et par quel réseau, je n'en sais rien, ils avaient entendu parler de LIP, qui était une usine qui avait été occupée, qui fabriquait des montres, qui était en autogestion en France. Et donc, ils ont dit, on voudrait avoir des contacts avec les comités LIP. Et j'étais dans un comité LIP, et comme j'avais le train gratis, je suis parti au Portugal rencontrer ces femmes qui tenaient cette usine. Et là, moi, je venais 2 ans avant, j'avais été au Portugal, pays étouffé. Et là, la parole libérée, complète. Dans les bistrots, on discute, les gens te prenaient à partie à la table d'à côté. Non, mais l'autogestion, c'est pas possible, etc. Les nanas dans leur usine, elles avaient remis l'usine en marche. Au premier temps, chacune s'est remise à son poste. Puis ensuite, elles se sont posé le problème de comment on se paye. Alors, elles ont commencé à discuter. « Ouais, mais toi, t'as plus de gosses. Ouais, mais toi, tu t'occupes de ta mère, etc. » Donc, ils ont commencé à discuter comment on redistribue le salaire autrement. Et puis, ils se sont aussi posé la question « Mais pourquoi t'es toujours à cette tâche-là » Mais toute seule, hein. Elles ont organisé une rotation des tâches en disant « Mais toi, tu pourrais aussi apprendre le travail de secrétariat, etc. » Elles se sont rentrées dans une logique d'autogestion. Mais profondément, enfin, c'était stupéfiant, quoi.
Qu'elles ont découvert par elles-mêmes, en fait.
Par elles-mêmes. Et alors, bon, pour avoir... on était dans une situation, si tu veux, sociale. Moi, la maison dans laquelle habitaient les femmes là, que j'avais en contact, elle était grande comme ce studio. Coupée en 2 pièces, il y a une pièce endormie, une pièce en manger, on se lavait.
Ah oui, d'accord.
C'était le sol, c'était par terre, c'était de la terre. C'était des toutes petites maisons, pas très loin de l'usine. T'étais pas dans un milieu qui était habitué à avoir beaucoup de bouquins, beaucoup de machins comme ça. Ben, n'empêche que ça avait énormément évolué. Et alors que ma principale interlocutrice, c'était une jeune femme qui avait été mariée à 14 ans par sa famille. Donc, elle était vraiment issue, tu vois, on imagine, c'était mieux catholique, on parle des islamistes, enfin, ils n'étaient pas beaucoup mieux, les catholiques,
triste,
là-dessus, voilà.
Ouais.
Tout est décidé à ta place, elle avait été engagée à l'armée parce qu'il fallait aller à l'armée, etc. Et tout. Même la femme, alors elle travaillait dans les services de santé de l'armée. Finalement, là, elle ne se mettait pas avec le mec avec qui on l'avait mariée. Elle te parlait contraception, elle était au courant de tous les trucs, du MLF, tout ça et tout. C'est-à-dire que tu avais brusquement... Tu sais pas comment les idées ont circulé de manière clandestine dans un pays totalement étouffé, etc. Et tout. Mais tu sentais brusquement un peuple qui se levait complètement, un émerveillement, une espèce d'échange partout. Et aucune violence, c'est une révolution très peu violente.
Ouais, ça, c'est intéressant.
À part un prêtre ouvrier qui a été assassiné par des gens de Lapide, pratiquement, il n'y a eu aucune violence. Bon, il y a peut-être eu des claques, il ne faut pas rêver non plus. Mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de bain de sang. Alors que, bon, ceci dit, la force du mouvement insurrectionnel a fait que ça a calmé les gens de la police en face. Quand ils avaient des chars avec des commandos, ils ne bougeaient plus. Mais la population, il n'y a pas eu de vengeance massive que dalle, alors qu'ils avaient été oppressés pendant 2 ou 3 générations, quand même. C'était quelque chose de très fort. Et t'avais Moustaki, donc. Je trouve qu'il retransmet bien ça dans cette chanson. C'est pour ça que je proposais cette chanson, parce que ça fait partie aussi, ça illustre des moments, brusquement, parce que pas grand monde avait écrit que le Portugal allait... Bon, tout le monde se disait, ça va pas tenir les colonies. C'était dans l'air du temps. Mais quand même, à ce point-là... Et alors, en même temps, c'est pour dire 2 mots de comment ça a évolué. cette dynamique, elle s'est aussi un peu affaiblie progressivement. Et puis, on a eu des institutionnels, c'est-à-dire on a eu l'Union européenne, notamment l'Allemagne, qui a beaucoup investi, mais qui a aussi imposé un modèle politique, etc. Et, tout. Et alors que la plupart des capitaines et les leaderships, leur porte-parole, c'était Othello de Carvalho, prônaient en fait une alliance du sud de l'Europe avec le Maghreb pour faire contrepoids à l'ultralibéralisme du nord de l'Europe. Bon, ils ont perdu. Il y a eu un espèce de complot bidon qui a été monté avec l'aide des Staliniens, tout ça, bon, qui ont été éliminés après, mais bon. Ils ont mis en taule Othello. Ils ont démembré, en fait, le mouvement des capitaines, qui était assez souple aussi. Hein. C'était pas un parti vraiment organisé. Et le mouvement s'est un peu étouffé. Enfin, c'est étouffé et a été dans la modernité, qu'on appelle, avec tout ce qu'il peut avoir d'ambigu sur modernité, etc. Et tout. Mais je pense que ça a été quand même un moment hyper important. Et moi, en ce qui me concerne, ça m'a donné un espoir mais éternel. Et donc, ça te prouve que c'est toujours utile d'informer, de faire passer de la culture, toi, tout ce qui passe dans la population, tout ce qui passe dans la conscience. C'est toujours utile parce que ben, ça ressort, je ne sais pas quand, mais ça ressort.
C'est comme une espèce d'hibernation, en fait,
C'était complètement un pays en hibernation. Mais les graines qui avaient été mises, ben, elles ont germé. Et donc, ce n'est pas toujours enthousiasmant de mettre des graines en disant « putain, mais ça ne sort pas ».
Qu'est-ce que tu penses alors de l'époque qu'on traverse aujourd'hui ?
Ah ben, je pense que alors, l'époque... Le problème qu'il y a, c'est que, et ça, on n'en avait pas forcément conscience à l'époque. On avait conscience d'enjeux écologiques, hein, mais on ne les voyait pas dans les mêmes termes. On les voyait plutôt dans les termes de la finitude de la Terre, au sens où on consomme plus que la Terre peut donner. Voilà, il y a une seule planète et on consomme trois fois ce qu'elle peut donner. Ça peut parler pétrole, tout ça et tout. Mais l'enjeu d'un dérèglement total, en fait, des systèmes, que ce soit biologiques, météo, etc. et tout, et de manière, avec des effets... très difficile à freiner, quoi. Rapide, mais en même temps, qui vont durer au moins, même si on arrête tout, au moins 50 à 100 ans. Quoi. Là, ça rend très compliqué la vie des sociétés humaines, dans un cadre qui était moins le cas à l'époque. Quelque part, la nation, l'État, l'instance politique qui est à notre portée de main et dans laquelle s'est conçu un système politique de débat, etc., et de décision, aujourd'hui semble totalement perdu. C'est-à-dire que les puissances qui semblent dominer le monde sont des puissances économiques qui sont contrôlées par personne. Ils ont un pouvoir d'action complètement dément. Donc on a du mal à contrôler ce qu'il faudrait faire pour arrêter cette dérive. Et en plus, les forces sur lesquelles il faudrait agir, nos outils, la démocratie, etc., ne semblent plus du tout les perturber. Ils sont branlés.
Pourtant, cette situation hyper libéraliste un petit peu partout dans le monde, ça semble assez évident que ça grignote et que ça consomme toutes ces richesses. Pourquoi est-ce que, du coup, les différents régimes ont laissé s'installer ce libéralisme à tout va ?
Il y a des mécanismes de la part des gens du pouvoir. Je pense que les gens du pouvoir préservent leur pouvoir, qu'ils le veuillent ou non. C'est comme ça que ça marche. Quoi. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on monte des structures, qu'elles ne se transforment pas en structures de pouvoir, ou qu'en tout cas le pouvoir y soit systématiquement contrebalancé pour être affaibli quelque part. C'est dommage pour eux, ça les fâche, mais c'est comme ça. Et puis, il y a aussi une difficulté devant la taille des choses à changer, parce que je pense qu'on ne dispose pas encore... Des moyens, des leviers, comment on va pouvoir changer tout ça à l'échelle où on nous le pose. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie des luttes se resitue dans le local, mais plus petit que l'État, quasiment. Mm-hmm. C'est-à-dire sur de la proximité humaine, c'est ce qui fait la sympathie du mouvement des Gilets jaunes aussi.
Tout à fait.
C'est qu'on revient sur quelque chose de plus local. À mon avis, c'est nécessaire. C'est le lieu d'éclosion des idées, des pratiques, des liens, des solidarités. C'est indispensable. C'est un peu la fondation de quelque chose à construire. Mais les outils pour que ça impacte les grosses structures multinationales ne sont pas trouvés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à créer des outils d'une humanité nécessaire, comme cette radio, par exemple. Hein, elle sert à ça. Mais c'est une des briques. Et on sait qu'elle est indispensable. Mais les briques suivantes, personnellement, je ne les vois pas. Comment on va trouver les leviers pour brider cette espèce de folie du fric, enfin, de toutes ces espèces de méga... Bon, ils se caricaturent tout seuls, je veux dire. C'est même pas la peine. C'est pas la peine de faire des clowns. Ils sont tout seuls, ils les voient, quoi. Avec Trump, avec Musk, avec Macron, on voit quand même... C'est une caricature de ces gens-là. Mais...
T'as entendu parler du syndrome du riche ?
Non.
Alors, paraît-il que les gens riches sont atteints d'un syndrome, On aurait découvert que les riches ont un syndrome, ont une maladie, en fait, qui les pousse à être toujours plus riches. et à avoir toujours plus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les plaint, on les soigne, on les enferme. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça?
Les plaindre, on n'a franchement pas envie de les plaindre. C'est... Bon, après, je ne pense pas que les... Parce que les enfermer, c'est les gens qui vont les enfermer devront être plus puissants que ceux-là. Et donc, on a déjà testé ça.
Donc, c'est un système qu'il faut totalement...
Non, il faut les neutraliser. Je pense qu'il faut, arriver à neutraliser cette capacité de nuisance qu'ils ont. Mm-hmm. Mais ça suppose que la société soit assez forte et assez construite en face. C'est pour ça que tout ce qu'on fait sur le terrain est indispensable.
Et pour que la société soit assez forte et assez solide, il faut donc multiplier donc ces réseaux plus petits, plus proches, plus locaux.
Oui, parce qu'il faut redonner de l'humanité. C'est-à-dire, en fait, le fond de l'affaire, c'est que l'humanité, globalement, se reprenne en main et puis ne se laisse pas embarquer sur des choses qui sont des héritages. Mmh. Mais c'est un peu cette espèce de truc du plus fort, etc. et tout, appliqué de manière absolument démesurée, démentielle, qui, alors, même, tout le monde voit que ça mène dans le mur. Enfin, tout le monde, non. Il faut quand même être lucide. Beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Et beaucoup de gens, y compris, sont capables d'écouter le moindre argument pour dire que c'est pas ça le problème. Enfin, ça prend. Donc, l'espèce humaine est quand même quelque chose qui n'est pas non plus sans faille. Hein. On est quand même une espèce animale particulière.
Oui, bien sûr. Mais ce qui est dramatique aussi dans notre système, alors je vais parler du système français, hein, puisque c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est que finalement, tous les endroits par lesquels l'information peut arriver aux citoyens, elle est contrôlée par les hyper-riches. D'où, comme tu disais, la nécessité de multiplier des radios comme la nôtre, des lieux d'information et peut-être des journaux underground, enfin un réseau de communication autre.
Ben oui, alors en plus, comme on est sur une émission sur le livre, moi je reste convaincu qu'il faut à tout prix garder l'écrit. L'expérience le prouve dans les pays de l'Est, par exemple, et le moindre dissident pouvait écrire un papier, le donner à un voisin, qu'il recopiait, qu'il donnait à un autre. C'est le moyen d'expression ultime le plus à la portée de tout le monde, que tout ce qui est technologique, même une radio comme la nôtre dépend quand même de capacités financières, de moyens techniques et d'une fragilité face à un pouvoir.
Oui, et donc d'interdits et de limites, voilà. De choses qu'on peut dire ou pas dire.
Voilà. Et quand on dit interdit, le plus dangereux sur l'interdit, c'est pas le moment où c'est interdit, c'est tout le moment où pour ne pas être interdit, tu te tais.
C'est ça.
Je pense qu'il y a effectivement des risques sur ça.
Donc apprendre à dire les choses autrement que frontalement.
Voilà, il faut aller, il faut en tout cas que celui qui veut vous faire taire se rende compte que ça va créer plus de problèmes que de vous faire taire, en fait. Qui mesure ça. Et ça suppose effectivement d'avoir une capacité de conviction, des liens, que les gens ressentent cette expression comme la leur, donc qu'elle leur appartienne quelque part, qu'ils y participent, etc. Bon, sachant que c'est comme sur les ronds-points, hein, on n'est pas disponible 24/24 les uns les autres, donc pour aller sur des trucs comme ça, et c'est des fois plus facile d'allumer un écran, parce qu'il y a des problèmes qui tiennent à la nature, au sens nature, l'animal humain. Hein. L'écran capte plus que la radio, et plus que la lecture même. Mais ça s'apprend, et ça c'est couillon, la lecture ça s'apprend. Si tu lis régulièrement, moi je lis bien des bouquins que j'arrive pas à lire, j'ai des potes, ils me scotchent, ils lisent des bouquins, j'y comprends rien. Mm-hmm. Je lis trois fois la page et j'ai toujours rien compris. Quoi.
Je suis rassurée, je suis pas la seule.
mais pourtant, je suis sûr qu'il y a des copains qui doivent penser que, oh là là, qu'est-ce que je tape comme bouquin, j'en lis plus qu'eux. Je pense que ça, il faut à tout prix ne pas perdre ce truc-là. J'ai essayé que mes filles gardent la lecture comme un espace de leur vie à un moment ou à un autre, parce que je pense que c'est enfin, quand on est dedans, c'est assez prenant, enfin, la lecture.
On écoute une dernière musique ?
Ah ben on va écouter, tiens, Moustaki. Et partout dans le monde, c'est compliqué, mais il y a un petit air partout, quoi. Donc, ouais, les choses peuvent bouger.
Henri, merci beaucoup d'être venu. Nous quittons en musique. Et reviens quand tu veux, avec de nouvelles lectures.
Pas de souci.
Merci beaucoup.
Tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution et la liberté. Que tout ça ne sert à rien, que ce n'est pas encore pour demain. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de rêver en croyant vivre la réalité. Qu'il faut rester les yeux ouverts et regarder tout ce qui va de travers. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de crier et de clamer mes quatre vérités. Qu'il vaut mieux se taire ou mentir, surtout savoir garder le sourire. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de parler de l'amour comme s'il existait, qu'il ne s'agit que d'un miracle, d'une illusion qui n'est plus de mon âme. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort ou raison, ça ne me fera pas changer de chanson. Je te la donne comme elle est, tu pourras en faire ce qui te plaît.